2 minutes Morin.
Morin. Live.
Live.
Morin.
En vacances.
Radio X.
Circulation, c'est les vacances à construction encore cette semaine. Donc, sévère partout, grande région de Québec. Je vois pas aucun problème de circulation à l'heure où on se parle, c'est-à-dire à 8h33, en ce 28 juillet. Cette semaine chez Métro, le programme Moi vous fait économiser gros sur vos fruits et légumes préférés avec des prix membres généreux sur les bleuets et framboises. Difficile de trouver mieux. Métro!
Let's go!
Jeff Cohn.
Salut Jeff.
Salut, ça va?
Ça va bien toi?
Ouais, super, merci.
Donc aujourd'hui, ensemble, en plus, Benjamin Netanyahu est dans le coin de New York, est allé à l'ONU d'ailleurs. Et on va parler des négociations de la guerre au Moyen-Orient qui semble loin de vouloir se terminer. Mais là, Donald Trump nous dit ça va se régler. Là. Les discussions semblent bonnes. Je pense qu'on va finir par y arriver.
Ben écoute, si c'est le cas, ça va être son 20e accord de paix cette
oui.
année.
Tabarouette.
Il mérite vraiment le prix Nobel là, cette fois-là.
Oui, tout à fait.
Non, ben en fait, c'est pas sur le point de se régler parce que là, ce qui est arrivé au cours des derniers jours, c'est que les Ukrainiens ont tiré sur un navire iranien en mer Caspienne.
Oui.
Qui transportait, selon eux, des composants russes qui étaient destinés à fabriquer des drones puis à des missiles en faveur de l'Iran. Ce qui, évidemment, a été démenti par les Iraniens. Puis là, les Iraniens ont convoqué le chargé d'affaires ukrainien dans le pays pour lui notifier une protestation officielle. Fait que ça, en langage diplomatique, c'est comme une... Je veux dire, diplomatiquement, c'est comme une déclaration de guerre, là. Quand tu convoques un diplomate à ton ministère des Affaires étrangères pour lui remettre officiellement une protestation officielle, c'est grave, là. Les stakes are high, comme on dit en anglais. Puis les autorités iraniennes, ils ont fait état d'un mort, de plusieurs blessés, puis ils ont dit que l'incident va pas rester sans réponse. Fait ça, c'est clairement, c'est une stratégie de la part des Ukrainiens, Zelensky, pour forcer les Américains, qui sont en guerre contre l'Iran depuis plusieurs mois déjà, de se réengager en faveur de l'Ukraine, parce que le message est clair, là. Si vous le faites, vous allez nous aider à combattre indirectement votre ennemi principal qui est l'Iran, parce que si vous nous aidez, on va être en mesure d'affaiblir la Russie, puis si c'est le cas, la Russie va cesser de contribuer à l'armement iranien. Donc, c'est vraiment l'objectif des Ukrainiens. Donc, puis Zelensky, sur X, samedi, il a tiré la sonnette d'alarme. Il a affirmé que depuis le début du mois de juillet, il y a des satellites russes qui surveilleraient activement les pays du Golfe pour y découvrir les installations militaires américaines dans la région, pour ensuite transmettre les images et les données à l'Iran pour qu'ils puissent frapper les bases aériennes de façon vraiment précise. Donc, les Ukrainiens jouent un jeu qui est vraiment dangereux parce que ce qu'ils veulent, c'est comme ça depuis 2022, ils veulent forcer un engagement direct de l'Occident contre la Russie. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est recréer l'engrenage fatal de l'été 1914 avec des jeux d'alliance entre différents pays qui mèneraient inévitablement à un conflit ouvert contre une puissance nucléaire. Trump, à bord d'Air Force One, a été interrogé par un journaliste. Puis il a dit, écoute, moi, j'y crois pas que les Russes aident les Iraniens en leur fournissant des images satellites puis des données précises pour qu'ils puissent ensuite frapper nos bases aériennes. Parce que il dit, selon moi, s'il y a une aide, c'est une aide qui est marginale puis qui est sans conséquence. Parce que, selon Trump, les Iraniens seraient désormais incapables de frapper les bases aériennes dans la région avec des missiles. Ce qui n'est pas nécessairement le cas, parce qu'il y a quand même eu des frappes là, iraniennes contre des bases américaines dans la région, des soldats américains qui ont été tués là, au cours des derniers jours par ces frappes-là. Donc, est-ce que la thèse de Zelensky tient? Est-ce qu'effectivement, les Russes fournissent aux Iraniens des données satellites? C'est possible. C'est possible, mais est-ce que ces matières, c'est suffisant pour que les Américains se réengagent du côté de l'Ukraine, comme ça avait été le cas sous l'administration Biden? J'en doute, mais ultimement, la décision va appartenir à Trump,
oui.
qui lui n'est pas intéressé.
Qui va rencontrer Zelensky à la Maison-Blanche, là, qui est sur place, va probablement étaler cette stratégie-là, j'imagine.
Oui, oui, puis parce que Trump a aussi dit qu'il avait parlé à Poutine, puis il avait posé la question, est-ce que tu envoies des données satellites à l'Iran? Poutine a répondu non. Fait que Trump, ça le satisfait comme réponse. Mais tu sais, au moins, ça montre que Trump, il a compris la game, il a compris le jeu, puis il veut pas se faire instrumentaliser par les Ukrainiens, comme il s'est fait instrumentaliser par les Israéliens en février, en se lançant dans ce conflit-là avec l'Iran, duquel il y a de la difficulté à s'en sortir, là. Donc, il ne veut pas reproduire la même erreur, je pense.
Mais est-ce qu'on va finalement trouver une voie de passage entre l'Iran et les États-Unis? C'est supposé durer 30 jours. On est encore dedans. On arrive au mois d'août. Fait que j'ai l'impression que Trump n'arrête pas de mentionner que, oui, il y a des négociations. Mais pendant ce temps-là, l'Iran dit non, on n'avance pas, là.
Non, puis, tu sais, on bloque, on débloque le détroit. Il y a des bateaux pétroliers qui sont arrêtés, qui sont arraisonnés. Les frappes continuent. Moi, j'ai l'impression que ça va continuer encore pendant des semaines et des semaines, non? Parce que, tu sais, Trump, on le connaît, là, il peut pas accepter une défaite.
Non.
Donc, il va continuer, dans la mesure du possible, ce que lui permet de faire la Constitution américaine, donc de pas s'engager dans un conflit ouvert, parce qu'à partir d'un certain moment, il aurait besoin de l'approbation du Congrès, mais c'est de continuer graduellement avec des frappes pour simplement rappeler aux Iraniens qu'il y a toujours la force de frappe, et les Iraniens vont aussi continuer à raisonner des bateaux, ils vont continuer aussi à lancer des missiles contre les bases militaires américaines dans la région. Non, j'ai pas l'impression que ça va se terminer prochainement. J'ai l'impression, si on se parle encore en décembre prochain, qu'on va être
encore là-dessus.
Je serais pas surpris.
C'est un peu une guerre sans fin. Je lisais un article dans Le Temps, un journal suisse, la semaine dernière, où il établissait un corollaire entre la guerre du Vietnam puis où est-ce que Johnson se trouvait en 65, juste avant qu'il accentue les bottes au sol au Vietnam. Puis ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de comparatif entre les deux guerres, là, mais il avait accentué les bombardements à partir de ce moment-là. On a l'impression que s'il n'y a pas de bottes qui sont déployées au sol en Iran, c'est une guerre qui va peut-être s'éterniser pendant 100 ans. Il n'y a pas d'issue possible. Mm-hmm. Puis quand on regarde le Vietnam aujourd'hui, ça n'a rien changé. Là, c'est encore communiste.
Oui, c'est ça. Non, mais c'est une bonne comparaison. Le truc, c'est que à un moment donné, Johnson s'est laissé convaincre qu'en envoyant des bottes sur le sol, que ça allait changer quelque chose. Mais je pense que la configuration du terrain en Iran est complètement différente de ce qui est au Vietnam. Vous voyez par exemple des images du détroit d'Ormuz. Vous avez une plage, puis une immense falaise, puis après ça, c'est le désert. Donc, si des soldats américains devaient débarquer dans la région, ben ils s'exposeraient à ça. Puis un soldat, avec l'équipement, là, dans une seule journée, doit consommer minimalement 5 litres d'eau.
Ouais.
Donc, imaginez le déploiement que ça exigerait. Ouais. Et si ça devait être le cas, ben il faudrait l'approbation du Congrès. Et là, vous pouvez être sûr que les démocrates diraient non. Puis vous pouvez être sûr aussi qu'une minorité de représentants, de sénateurs républicains, de l'aile MAGA pure et dure, qui eux aussi, vraisemblablement, pourraient s'opposer à une intervention militaire en Iran. Donc, au final, l'approbation du Congrès serait pas donnée au président. Donc, je pense que Trump, il est parfaitement au courant de ça aussi. Donc, il s'en tient à des frappes chirurgicales, qui est question de maintenir la pression puis d'envoyer le message qui n'a pas perdu la guerre, qui n'a pas accepté la reddition, qui continue à combattre puis à soutenir son allié israélien.
Le Parlement israélien, justement, a achevé son mandat le 17 juillet. On s'en va vers des élections le 27 octobre. Est-ce que Trump a avantage à vouloir garder Netanyahou au pouvoir? Comment il voit la situation? Là, ça va assurément faire partie des discussions au bureau Oval aujourd'hui. Est-ce que Trump, c'est à son avantage que Benjamin Netanyahou reste au pouvoir?
Moi, personnellement, là, si je me mets dans ces culottes, là, je souhaiterais sa défaite.
Moi, parce je pense que
ouais.
Oui, non, parce que c'est Netanyahou qui l'a embarqué dans une patente à gosse là, en lui vendant des menaces qui étaient plus ou moins crédibles.
Le nucléaire.
Tous les gens qui étaient en bureau ovale, les gens du FBI, du CIA qui ont analysé les preuves qui étaient déposées par Netanyahou, ils n'étaient pas convaincus du tout, là. Puis Trump, ben lui, il s'est laissé convaincre, puis maintenant, il est victime de sa décision. Donc, il s'est vraiment laissé embarquer, comme je dis, dans une patente à gosse, sur, comme en 2003, quand les Américains sont intervenus en Irak. Les fameuses armes de destruction massive, on les cherche encore, là.
Oui, c'est ça. On aurait rien de concret.
20 ans plus tard, on les cherche encore, c'est ça. Donc, il s'est fait embarquer dans une patente comme ça. Puis là, ben, il a de la difficulté à s'en sortir sans perdre la face. Mais s'il y a une défaite de Netanyahou, ben là, il pourrait dire, bon, ben maintenant, la donne politique en Israël a changé. Les Israéliens sont davantage prêts à négocier. Donc, ben nous, on va appuyer nos alliés israéliens. Puis là, ça lui permettrait de renvoyer le blâme de ce qui pourrait apparaître comme une défaite sur les Israéliens en disant, ben écoutez, ce sont nos alliés, eux, ils ont décidé de faire une paix, ben voilà.
Allons-y, ouais, c'est ça.
On les suit, puis on les soutient dans leurs décisions, là. Mais c'est ça, je pense que beaucoup de gens aux États-Unis, surtout dans le Parti républicain, commencent à souhaiter la défaite de Netanyahou. Puis c'est, tu sais, quand tu y penses, Netanyahou, les Israéliens, depuis les attaques terroristes là, du Hamas en octobre 2023, je pense que dans l'histoire, il n'y a pas un meilleur exemple d'un pays qui, initialement, avait un droit à la légitime défense, là,
Ouais. Mais
qui a agi de façon complètement disproportionnée, à tel point que maintenant, on leur jette le blâme. On dit que c'est eux qui sont coupables de tous les maux de la Terre. Puis, je veux dire, c'est pas nécessairement faux, là, parce que leur réaction, il devait y avoir une réaction, évidemment, après les attentats, mais écoute, là, ils ont rasé Gaza, ils ont commencé à envahir une partie du Liban, ils ont annexé aussi une partie de la Syrie, se sont lancés dans des frappes aériennes contre l'Iran. Tu sais, la disproportion de leur réaction qui a mis le feu aux poudres à toute une région. Maintenant, on vit les conséquences de ça. Mais
Netanyahou fait face à des accusations, donc c'était logique pour lui de s'accrocher au pouvoir. Si jamais il perd, est-ce qu'il se ramasse en prison?
Ah, il y aurait sûrement un procès, puis il pourrait effectivement se ramasser en prison. Mais là, maintenant, comme il est tellement allé loin, non seulement une grosse partie de l'opinion publique américaine puis occidentale qui sont maintenant s'est retournée contre lui, mais probablement qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui en ont marre, puis qui sont en train de réaliser...
Qui veulent que ça change. Oui,
on avait un droit à la légitime défense. On a fait ce qui devait être fait, mais là, maintenant, il faut cesser. Puis, tu sais, ces gens-là, ils ont des frères, des époux qui sont dans l'armée. Puis, il y a quelques mois de ça, le chef de l'état-major de l'armée israélienne disait que l'armée israélienne était à un point de rupture. Il n'y avait plus de rotation, il n'y avait plus de réserve. Parce que Israël est maintenant engagé sur une demi-douzaine de fronts à Gaza, au Liban, en Syrie, en Iran. Au Yémen, je veux dire, à un moment donné, là, les forces armées israéliennes en peuvent plus. Là.
Ouais, si tout à fait.
Elles en peuvent plus, puis sont pas en mesure de percevoir le début d'une victoire. Ben là,
non, c'est ça, c'est sans fin.
Ça crée un découragement. Puis là, les gens se disent, bon, ben, c'est correct, là, mener une guerre de 6 jours, de 7 jours, de 2 semaines, qui nous permet d'avoir une victoire puis d'assurer la sécurité de nos frontières pour idéalement une génération. Mais là, ils sont en train de sacrifier des vies de mon frère, mon époux, dans des conflits sans fin. Ben là, moi, je veux pas manger de ce pain-là. Là. Donc, ça peut jouer en faveur de l'opposition à Netanyahou. Cette
situation-là.
C'est ça. Voilà.
Ouais, autre chose dont on voulait parler parce que le temps file, c'est l'histoire de cette Canadienne d'origine chinoise qui, là, dans le fond, c'est les forces militaires belges qui ont soumis des renseignements puis qui ont fait arrêter cette Canadienne-là d'origine chinoise, puis on la suspecte d'espionnage carrément. Puis elle était stagiaire au sein de l'OTAN. Elle était dans un endroit qu'on appelle Shape, entre autres. C'est assez quand même stratégique, cet endroit-là, parce que Shape, il y a des officiers militaires de l'OTAN qui font partie de la chaîne de commandement. Donc, il y a beaucoup d'informations sensibles là, qui ont pu être espionnées, possiblement par cette Canadienne-là chinoise. Fait que le Canada paraît mal un peu.
Oui, bien écoute, est-ce que les Chinois nous espionnent?
Pense
est-ce que les
oui.
Russes nous espionnent? Est-ce que les Américains nous espionnent?
Pense que oui.
Oui. Est-ce qu'on espionne aussi les Américains, les
oui.
Chinois puis les
pense
Russes?
Pense que oui.
si c'est, la réponse n'est pas oui, c'est du moins je l'espère. C'est normal pour tous les pays, même entre alliés, de s'espionner pour savoir ce qu'ils ont en tête, etc., etc. Puis même si, techniquement parlant, c'est un acte de guerre... Comme tous les pays le font, il y a comme une entente tacite que ben, lorsqu'on se fait espionner, on ne considère pas ça comme un acte de guerre. Parce qu'on fait la même chose avec vous autres de toute façon. Là où le bas blesse, c'est ça, c'est une stagiaire, donc c'est une étudiante
qui a été
embauchée pour essentiellement une job d'été, puis elle aurait eu minimalement la cote secret. Donc, qui lui permet d'avoir accès à des documents qui sont classés secrets, pas top secret, mais secrets, donc qui sont quand même assez, assez sensibles. Puis là, la question, c'est n'importe qui, n'importe quel citoyen canadien ou un non-ressortissant canadien qui va travailler dans une ambassade canadienne, moi, je le sais parce que j'ai déjà essayé de faire travailler mes étudiants à l'ambassade canadienne pour un été, puis on m'a dit, écoute, ça n'en vaut pas la peine parce que ça prend à peu près 6 mois pour faire une enquête de sécurité sur la personne, parce que la personne va avoir accès à des documents secrets. Donc, si c'est juste pour une job de 2-3 mois, tu comprends
ça
que
sert à rien.
Le coût-bénéfice n'est pas de notre côté, donc ça sert à rien. C'est parfait, je comprends. Donc, ça veut dire que, minimalement, on s'attend à ce que la personne en question, il y ait eu une enquête de sécurité qui a duré à peu près 6 mois, la moitié d'une année. Mais si on est passé à côté du fait que la personne avait peut-être des liens avec les services de renseignement chinois, ben de deux choses l'une. Soit la job a été bâclée.
Ouais.
Ça s'est fait en 2-3 semaines parce qu'il fallait du monde. Puis ça, c'est l'autre question. Il fallait du monde, mais quel genre de monde? Vous savez, dans la fonction publique fédérale, tu sais, il faut embaucher des minorités. Il y a des quotas à respecter.
Oui.
Se pourrait-il que pour atteindre les quotas dans matière de diversité, on a eu besoin de court-circuiter puis de bâcler certaines enquêtes de sécurité de personnes appartenant à des minorités visibles pour être en mesure de remplir les quotas. Mais si c'est le cas, c'est une grave erreur. Puis je veux dire, la faute, c'est pas juste la personne qui a été arrêtée, mais la faute, c'est aussi tout ce qui a précédé, qui a été impliqué dans l'embauche de cette personne-là, comment le processus d'enquête sur la personne a été fait. Puis s'il y a eu des manquements dans la fonction publique, ben il devrait y avoir une enquête, minimalement d'un comité permanent de la Chambre des communes, pour faire l'enquête sur la question. Puis s'il y a des gens qui ont bâclé l'affaire pour des raisons X ou Y, ou en tout cas, dans ce cas-ci, peut-être de respect de quota de la diversité, ben je pense que les Canadiens ont le droit de le savoir.
Oui, puis tu sais, dans la presse, on citait un ancien espion qui s'appelle Phil Gorski, puis lui, justement, il mentionnait qu'il y a probablement des enquêtes qui auront lieu au niveau du recrutement, mais il disait que pendant les années de Justin Trudeau, le gouvernement, spécialement avec les immigrants, disait « Ouais, il faut prendre le temps de vérifier, mais on a besoin de ces gens-là, fait que vérifie, mais fais ça vite. »
C'est ça, chop chop. On a besoin de remplir nos quotas de diversité parce que ça paraît bien. Ben, tu sais, tu vois, l'espèce de multiculturalisme comme ça, à la Trudeau, où il faut absolument avoir des minorités simplement pour le fait d'avoir des minorités, ben, ça peut être une des conséquences. Parce qu'on bague des enquêtes de sécurité, parce qu'on a des quotas à remplir. Ben, si c'est le cas, là, les gens ont le droit de le savoir. Puis si ça se mon hypothèse se confirme, ben je pense que ça devrait être un clou supplémentaire dans le cercueil du wokisme. Puis ces politiques de diversité qui, tu sais, dans ce cas-ci,
quota à remplir,
qui mine la sécurité nationale. Là. Ça, c'est un cas, mais il y en a eu combien d'autres cas comme ça?
Si mon
hypothèse se confirme, effectivement, de membres de minorités visibles qui ont eu des enquêtes de sécurité bâclées, qui maintenant travaillent à l'OTAN, à Washington ou dans n'importe quelle autre ambassade canadienne dans le monde, qui ont aussi peut-être des liens avec des services de sécurité étrangers. Tu sais, c'est peut-être juste la pointe de l'iceberg, là, cette histoire-là. Puis ça serait normal qu'un comité de la Chambre des communes aille au fond des choses. Là.
C'est un excellent point, mais même si on s'espionne tous là, potentiellement, mutuellement, les uns les autres, peux-tu nous expliquer c'est quoi le shape, exactement, le quartier général de l'OTAN? Qu'est-ce qui se tramait là-bas?
Ben écoute, c'est parce que le quartier général de l'OTAN se trouve à Bruxelles. Donc, vous avez des généraux de l'armée canadienne, de tous les pays membres de l'OTAN qui sont là. Puis c'est là où ils établissent des plans de coordination, des stratégies dans l'éventualité d'un conflit avec la Russie.
C'est quand même pas rien.
Il y a le plan de qu'est-ce qu'on fait si les Russes attaquent les trois pays baltes. Ben les officiers des états-majors des pays membres de l'OTAN, ben ils établissent des plans à cet endroit-là. Là. Puis c'est là où les décisions se prennent. Puis, écoute, on parlait beaucoup au cours des dernières semaines de la chef d'état-major de l'armée canadienne, la générale Carignan, qui est beaucoup décriée justement pour les politiques wokistes qui ont été adoptées par l'armée canadienne. Ben, son nom circule pour devenir chef de l'état-major à Bruxelles, là, au conseil général.
Oui.
Mais donc, c'est un lieu hyper stratégique, là. Puis, tu sais, je veux dire, le Canada à Bruxelles, là, le Canada a 3 ambassades à Bruxelles. Vous avez l'ambassade du Canada en Belgique. Vous avez l'ambassade du Canada auprès de l'OTAN. Donc, une ambassade, c'est pour l'OTAN. Puis, tu as une autre ambassade auprès de l'Union européenne. Donc, le Bruxelles, ouais. C'est un endroit qui est hyper stratégique pour le Canada. On a 3 ambassades là-bas, là.
Ça va être, il va falloir qu'on enquête, parce que probablement, comme tu le disais, c'est peut-être la pointe de l'iceberg. Jean-François, c'est vraiment tout le temps que j'ai. Je sais que tu voulais me parler de Sylvain Charlebois. Peut-être qu'on peut le faire.
Une autre fois.
On va faire ça une autre fois. C'est bon. Parfait.
Ben oui, pas de trouble.
Hey, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin.
Salut, bonne journée.
Jean-François Caron. Effectivement, tu sais, toutes les histoires d'enquête de sécurité un peu bâclées, là. Ben, on peut peut-être avoir de mauvaises surprises, là. Surtout au shape, tu le disais, là. C'est 32 pays membres de l'OTAN. Il y a des officiers militaires là-bas qui font partie de la chaîne de commandement, des plus hautes instances de l'Alliance au niveau politique. Par exemple, mettons, les opérations pour les missions en Afghanistan, Libye, Bosnie, Kosovo, par le passé, étaient traitées là.
Exact. Puis c'est là, présentement, comme Jean-François l'a dit, qui prépare la future guerre ou potentielle guerre en Russie. Toutes les
exact.
Plans sont dessinés là-bas. C'est quand même pas des informations qui sont banales.
Non, t'as raison.
Et c'était...
On fait une pause, au retour, on jase avec Creed of Sports, bougez pas.
Morey, nous sommes live.
On revient dans pas long.
Désolé.
Radio X.